MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.
Eh bien, rebonjour les amis, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Radio Immo, il est 11h58 exactement, bientôt midi. On est ravis d'être avec vous. On a ouvert cette édition 2025 du MIPIM autour des acteurs principaux du logement, mais aussi des élus locaux, des élus de la nation. Eh bien, je vous avais promis ce grand entretien avec la ministre du Logement. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau. Bonjour Valérie Létard.
Bonjour et merci de m'accueillir sur votre plateau.
Merci vraiment d'être avec nous. Alors, je sais que vous avez... Et pour cause, un calendrier contraint. Vous êtes ministre, donc forcément, vous avez un agenda de ministre. Donc, on va aller tout de suite sur les sujets qui sont des sujets graves dans notre pays, qui consistent effectivement à essayer de trouver des solutions pour le logement des Français. Le logement neuf traverse une crise sans précédent, vous le savez. En 2024, on a fait les chiffres et une véritable hécatombe. Je vous donne juste un chiffre, mais vous les connaissez déjà. Les mises en vente de logements ont chuté de plus de 50% comparé à 2022. Ce n'était jamais arrivé. Avec des autorisations de construction au plus bas niveau depuis des décennies. Résultat, moins de logements construits, des prix qui restent quand même hauts. On a vraiment des difficultés à agir sur les matières premières, sur le coût de la main-d'œuvre. Vous l'avez même dit d'ailleurs en disant, voilà, il y a des difficultés là-dessus. Mais il y a peut-être une lueur d'espoir. Vous avez beaucoup travaillé sur justement des mesures pour 2025, notamment sur le PTZ. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces mesures et en quoi il vous semble, vous, Madame la Ministre, que ça va être efficace pour relancer ne serait-ce que la construction de logements neufs?
Alors oui, vous l'avez dit, on vit depuis quelques années un moment difficile pour le monde de la construction et du logement, difficile pour des raisons structurelles et conjoncturelles. Je ne vais pas ici les rappeler à des professionnels qui savent très bien de quoi il s'agit, mais c'est vrai que c'est une séquence particulièrement inédite, difficile et qui interroge évidemment tous les acteurs du secteur. Et j'ai voulu, dès mon arrivée en responsabilité, m'inscrire en tout cas dans une réflexion et dans un travail construit avec le secteur. Et j'ai beaucoup consulté avant d'embarquer en tout cas les choix que j'ai portés pour le budget 2025, mais aussi pour les chantiers à construire dans la foulée et pour la suite, pour les années qui viennent. Et déjà... Que fait-on pour être au rendez-vous de 2025? La première chose, c'est la relance de la construction neuve. Elle doit aussi se conjuguer avec une aspiration forte des Français d'avoir un accès à la propriété facilité. Dans le neuf particulièrement, mais aussi bien évidemment dans l'ancien pour partie. Mais en tout cas, soutenir la construction neuve en essayant de faciliter l'accession à la propriété, c'est aussi un relais qui peut aussi se développer très rapidement pour tous ceux qui sont dans l'acte de construire. Si vous avez une appétence et des capacités à investir pour de nombreux accédants, alors vous relancez très vite la construction. Deux pistes que j'ai choisies tout de suite avec les acteurs du secteur. D'abord, la première, le prêt à taux zéro. Eh oui. Élargir dans le neuf sur tout le territoire.
Bien sûr.
Tendu, détendu. Tendu, détendu, c'était pas fait. Hein, dans l'individuel comme dans le collectif.
Oui, oui,
l'individuel,
oui.
Vous le savez, c'était pas fait non plus. Et de maintenir, bien évidemment, en zone détendue, la possibilité d'avoir un PTZ dans l'ancien. Alors, cela...
Est-ce que ça concerne les maisons individuelles également?
Oui. Oui,
ça, concerne... ça, vous l'avez obtenu
complètement.
Porte,
ouais. Ah, ça n'a pas été simple parce qu'effectivement, on nous oppose la question du foncier. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on sait construire du logement individuel qui n'est pas forcément fortement consommateur de foncier. On a une autre façon aujourd'hui de mobiliser et de maîtriser le foncier, y compris pour faire de l'individuel. Ce qui était important pour moi aussi, c'était de me battre sur un autre sujet qui est connexe au prêt à taux zéro. Si vous défendez le prêt à taux zéro, mais que vous n'êtes pas sensible à éviter que l'augmentation des DMTO impacte les primo-accédants, le bénéfice de l'un est annulé par l'impact de l'autre. Et je me suis battue pour qu'on ne rentre pas dans l'augmentation des DMTO, c'est-à-dire des frais de notaire, pour les primo-accédants, ce qui permet d'avoir le bénéfice maximal de cet accès au prêt à taux zéro. Le deuxième volet, vous le savez, qui était important, c'est comment encourager l'accélération de la transmission entre générations. J'ai obtenu là aussi, et ça a été un travail partagé avec le secteur de l'immobilier, à qui j'ai demandé comment on agit dans le court terme à la fin de ce Pinel qui n'est pas donc au 31 décembre reconduit. Il me fallait une mesure de court-moyen terme et comment se projeter sur l'avenir. Cette mesure de court-moyen terme, c'est de dire, allez, on va mobiliser quelque chose qui va permettre d'aider les classes moyennes et moyennes sup à transmettre, dans les meilleures conditions et on permet à des parents ou à des grands-parents de transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants 100 000 euros par enfant. Et on peut cumuler donc 3 donateurs pour un même bénéficiaire, c'est-à-dire un père, une mère et un grand-père pourront donner à la même, au même enfant ou petit enfant.
Même si tout le monde n'a pas 100 000 euros quand même à
non.
donner.
Ben, c'est-à-dire vous donnez
ce
que vous pouvez.
Ça
concerne quand même, à mon avis, une part significative des classes moyennes et moyennes sup, et ça va compléter les forfaits pour le PTZ et pour les ménages modestes. Prêt à taux zéro impacte aussi sur les classes moyennes et moyennes sup. Ces donations vont permettre, sans payer
droit de mutation de frais maîtrisé.
De donation, hein, sans frais de succession, vous allez avoir. Donc, et c'est, cette mesure, elle est conjoncturelle. C'est juste que fin 2026. Donc, ça encourage tous ceux qui veulent transmettre plus vite à le faire dans les meilleurs délais et donc à accélérer une capacité à amener de la production de logements neufs. C'est pour accéder à une résidence principale dans le neuf ou vous pouvez investir dans du locatif neuf. Donc, vous voyez bien que ça, ça aura une tendance quand même à avancer rapidement sur le sujet. Ça ne purge pas la question, effectivement, de l'investissement privé, mais je pense qu'on y reviendra
peut-être
tout à l'heure. Mais donc, vous voyez bien le paquet des trois, c'est-à-dire la primo-accession n'est pas impactée par les augmentations de DMTO, le PTZ pour les ménages modestes et pour les classes moyennes, moyennes sup. Voilà un ensemble qui permet d'aider nos ménages français, mais aussi d'aider la promotion et l'investissement.
Ça va relancer, puisque vous le savez, le marché s'est rétréci par deux.
Bien
sûr. Aider, bien sûr, les promoteurs, puisqu'il y a aussi une chaîne de valeur avec des emplois. Bien évidemment, autre volet, le logement social, parce que la production de logements sociaux doit être aussi le moteur de la reprise économique. Hein, vous l'avez également dit, à la fin de l'année 2024, vous avez poussé une baisse. Alors là, franchement, on a tous été épatés, parce que vous êtes attaqué à un totem.
C'est ça.
C'est un totem, hein, très clair. La réduction du loyer de solidarité. Alors, bien évidemment, on a fait une estimation à la rédaction, on s'est dit, bon, bah, 200 millions d'euros donc, de baisse de la RLS, ça fabrique quand même 7500 logements nouveaux. Je veux dire, mais ce n'est pas neutre. Et vous avez cassé finalement cette peut-être idéologie, ce dogme ou ce totem. C'est peut-être le début, et je sais, et vous l'avez dit, que vous n'y étiez pas favorable au départ à la RLS. Mm-hmm. Donc finalement, vous êtes ministre, vous y attaquez. On peut espérer que ça va progresser.
J'ai essayé d'être cohérente avec les convictions qui m'ont toujours
animée. Vous l'avez dit,
hein. Et aussi parce que ça a été le reflet des aspirations du secteur du logement et du logement social. Je veux dire, là-dessus, j'ai même été soutenue par Éric Lombard, qui est un fin connaisseur du monde du logement social, évidemment, et qui m'a soutenu dans la démarche parce qu'il sait très bien que s'il y a une époque où certains bailleurs sociaux qui étaient appelés dodus dormants depuis 2017, avec des ponctions annuelles d'1,3 milliard sur les fonds propres des bailleurs, ça finit par être une attrition de leur capacité
absolument.
En fonds propres et donc à agir en même temps sur la rénovation thermique des logements sociaux et sur la construction de nouveaux logements sociaux. Et donc, il fallait regarder non pas comment mettre fin à 1,3 milliard dans un moment où on a besoin de crédit, mais ouvrir quand même cette capacité à rendre des fonds propres aux bailleurs sociaux pour aller mobiliser les prêts. Avec le taux du livret A à 2,4, là aussi, sur lequel j'ai pu compter sur Éric Lombard pour le porter au curseur le plus attractif, en tout cas le plus intéressant pour les bailleurs, c'est 850 millions de liquidités. Et n'oubliez pas aussi que normalement, moi quand je suis arrivée, le projet de budget prévoyait aussi une indexation de 140 millions de la RLS. C'est-à-dire que ce n'était pas 200, mais 340, en fait, la réduction que j'ai obtenue. 340 millions, les 850, tout ça m'a permis de signer en bas de la feuille avec le monde du logement social, avec MACOS et toutes les fédérations de bailleurs sociaux, un accord sur un engagement des bailleurs à atteindre 100 000 agréments dans le neuf, plus 16 000 logements neufs dans le cadre de l'ANRU, 116 000 agréments neufs engagés sur l'année 2025. Hein. Alors, on va dire mars 2025, mars 2026,
oui,
un peu décalé.
Bien sûr,
Et parallèlement, 120 à 130 000 rénovations thermiques. Donc, c'est quand même une ambition forte sur laquelle il va falloir aussi qu'un acteur soit mobilisé. Et c'est un autre volet qu'on abordera peut-être après, c'est comment encourager les maires à autoriser effectivement de la construction de logements sociaux et de la production de logements en accélérant effectivement cette intention et cette ambition. Les maires sont au cœur du dispositif.
C'est très clair puisque en fait vous demandez également aux bailleurs sociaux une contrepartie. Il ne s'agit pas de dire je m'attaque à quelque chose de totémique et celui de la RLS. Encore une fois, je vous demande en échange effectivement
d'être
de faire des actions. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant l'action en elle-même que le fond, le sens de ce que vous avez porté. Vous avez engagé un dialogue différent et différent des cinq précédents derniers ministres du logement. Je mets peut-être un peu à part Julien de Normandie qui avait une écoute extrêmement intéressante du temps de Jacques Mézard lorsqu'il avait pris ses fonctions. On avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Autre sujet également, la régénération urbaine, enjeu majeur. Alors, je ne vais pas vous refaire ce que vous a dit Bourdin sur Sud Radio ou d'autres sur bien évidemment les problématiques de DPE. On sait aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet sur le diagnostic de performance énergétique, que le coût de l'énergie est un enjeu majeur. Non, je voudrais qu'on le prenne sous le côté de la régénération, c'est-à-dire il y a 173 millions de mètres carrés en France. Il y a la place de l'immobilier qui a publié une étude sur le gâchis du mètre carré, la transformation sur l'empreinte au sol des bureaux en logement. Question, est-ce que on est capable d'y arriver, Madame la Ministre, aujourd'hui, en l'état? Est-ce que vous dites, il va falloir de toute façon aller vers une massification, peut-être, voire même une industrialisation de la transformation de logement en bureau? Que faut-il faire pour accélérer les choses? Je sais que vous y êtes extrêmement sensible.
Oui, bien sûr. Alors, peut-être vous dire qu'il y a des choses à mettre en place, et il y a déjà et surtout une proposition de loi qu'il faut achever. C'est la proposition de loi Daubier qui n'a toujours pas été adoptée, qui attend une date, un délai pour pouvoir être examinée en commission mixte paritaire, et donc avec un certain nombre de dispositions qui permettront de simplifier et rendre plus, en tout cas, accessible cette transformation de bureaux en logement. Et en tout cas, ça doit être vu très prochainement. Là, j'ai l'engagement qu'effectivement, ça fait partie des sujets prochains qui seront inscrits à l'ordre du jour. Alors, cela va permettre de faciliter, évidemment, le changement de destination d'un bâtiment, hein, de bureau en logement, sans passer par changement de PLU, par exemple.
Donc c'est génial.
Et donc ça, c'est dans la proposition.
On a déjà une empreinte au sol.
Mais voilà.
À partir du moment où on respecte la norme, ça devrait être faisable.
Voilà. Et donc ça, il suffit que la CMP se réunisse et ça va déjà enlever un caillou dans la chaussure de la transformation.
Et du coup, on gagne un an. On gagne un ou deux ans d'instruction.
Ça, c'est du temps de gagner. Et ensuite, il faudra bien évidemment coordonner les opérations pour rendre ces transformations viable économiquement. Ça, c'est un autre volet. C'est dans ce sens que je vais présenter un plan dans les toutes prochaines semaines pour en fait travailler sur comment réutiliser l'existant. Il manque des logements de petite surface en France. Cela va permettre d'augmenter le nombre de logements. Il faut aussi réfléchir à d'autres manières de penser l'habitat et à des solutions innovantes.
Bien sûr.
Et ça, c'est au-delà de la transformation de bureaux en logement. C'est comment, par exemple, les constructions hors site nous permettront aussi d'être au rendez-vous du rapport coût-efficacité.
Parce que le problème, c'est le coût. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a transformé les bureaux en logement et on a des écarts de coût dans l'ordre de 25-30%.
C'est ça.
Comment, donc, vous, si je vous suis, c'est que finalement, plus on ira vers une forme d'accompagnement. Par exemple, vous avez cité le fait de ne pas refaire un permis, finalement, de ne pas déposer un
déjà,
permis.
Déjà, oui, essayer de réduire toutes ces contraintes qui sont autant
la productivité serait meilleure, l'assemblage hors site, la possibilité aussi, par exemple, de récupérer des façades. On a beaucoup de sujets. Justement, le ZAN, le fameux zéro artificialisation net. Sur le principe, c'est une très, très belle idée. Mais je ne connais pas un maire, j'en ai reçu quelques-uns ce matin, qui me dit que l'application concrète n'est pas délétère à l'égard des administrés. Je cite Stéphane Baudet, qui est le président de l'Association des maires de l'Île-de-France, que vous avez croisé tout à l'heure, le maire d'Évry-Courcouronnes, qui dit « Pour moi, c'est une injonction contradictoire. On a, j'ai des demandes de logements absolument... J'ai 6500 demandes sur la commune d'Évry-Courcouronnes avec 300 logements disponibles. C'est 900 000 demandes au global auxquelles je fais face avec mes collègues maires. Et en même temps, on m'enjoint ce fameux ZAN qui m'empêche en fait de construire. C'est une façon de me briser finalement ma capacité à agir. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un travail peut-être de pédagogie intéressante à développer? Et la question, c'est quel est l'avenir du ZAN? Compte tenu des difficultés démographiques.
En tout cas, c'est un sujet auquel je suis sensible. En même temps, la loi climat, elle parle d'un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est comment mieux maîtriser et mieux consommer notre foncier. Ça ne veut pas dire ne plus consommer de foncier du tout, mais c'est comment, effectivement, on a des documents d'urbanisme de plus en plus structurés, efficaces, efficients, pour justement mieux mobiliser le foncier, mieux consommer le foncier. C'est vraiment ça qui est important, reconstruire la ville sur la ville à chaque fois que possible. Mais on a malgré tout besoin encore de foncier disponible. Il y a eu une première initiative parlementaire, j'étais à l'époque sénatrice, j'y ai participé, qui avait permis d'assouplir justement les contraintes du ZAN.
Mais oui, tout à
j'avais
fait.
Été en fait la présidente de la commission spéciale et j'étais à la manœuvre avec Jean-Baptiste Blanc sur ce premier exercice. Aujourd'hui, un deuxième est en cours, puisqu'une deuxième initiative parlementaire du Sénat va être examinée dans les jours qui viennent et va s'atteler à redonner encore un peu de souplesse. Et il me semble qu'aujourd'hui, François Rebsamen est en échange régulier avec les auteurs et rapporteurs de ce texte. Et on devrait obtenir effectivement sur les délais. Par exemple, je pense qu'il y a un consensus qui se dégage, il me semble, au Sénat et avec François Rebsamen sur le décalage du calendrier 2024-2034 plutôt que 2021-2031. Ce qui, très objectivement, va rendre en foncier disponible... une capacité à mobiliser assez significative, soit doit être de l'ordre de 37 000 hectares, il me semble, qui pourront faire l'objet justement d'une utilisation.
Ce serait une avancée extraordinaire.
Et donc là-dessus, ça chemine plutôt bien entre le gouvernement et le Sénat. Il faut que ça fasse la navette parlementaire, mais en tout cas, la préoccupation, elle est bien là. Le gouvernement a bien conscience que tout en maintenant la nécessité d'avoir un zéro artificialisation nette et un objectif climat à ne pas perdre de vue, il faut en tout cas tendre à le lisser dans le temps et à faire en sorte qu'il ne soit atteignable, accessible et qu'il ne soit pas orthogonal de la nécessité de produire. On a besoin aussi en matière économique, par exemple, de produire des data centers. On a besoin de foncier pour l'économie et on a besoin de foncier pour le logement et les aménités liées aux grands projets que nous mettons en œuvre. À chaque fois qu'on peut le faire en allant reconquérir des friches ou des espaces délaissés, il faut le faire. Mais on a besoin de foncier supplémentaire.
C'est extrêmement clair. Autre sujet, vous avez été interpellé à l'Assemblée nationale par la présidente du Conseil national de l'habitat, Anaïg Lemeur, députée du Finistère, qui on la salue d'ailleurs au passage, puisqu'on l'a en grand jury de la presse le 18 mars, les amis. Elle vous dit, alors je ne sais pas si on a le son là en régie, on l'a, je voudrais qu'on l'écoute rapidement, et vous avez fait une réponse qui est extrêmement adapté. Je voudrais qu'on appuie un petit peu sur cet élément. Je vous propose qu'on l'écoute.
Madame la ministre, le diagnostic de performance énergétique est un outil essentiel pour informer les propriétaires et locataires, orienter les rénovations et lutter contre les passoires et bouilloires thermiques. Pourtant, une récente étude menée sur 8 millions de DPE a révélé que 1,3 million d'entre eux seraient frauduleux. Ces fraudes, fausses et décisions d'achat et de travaux compromettent la transition énergétique et fragilisent la confiance des ménages. Les diagnostiqueurs, confrontés à des pressions économiques, à des outils perfectibles et à des dérives internes, appellent à une meilleure structuration de leur profession, notamment par un renforcement des formations. Intégrer le prêt avance rénovation ainsi que le prêt collectif en copropriété sont des premières avancées.
Voilà, et vous avez répondu, et je voudrais que vous redéveloppiez. Alors là, vous avez été... Je vais vous dire, on a beaucoup apprécié, parce que vous avez été sans aucune ambiguïté. Je dis, voilà, haro sur la fraude, vous allez muscler, notamment, vous avez évoqué la carte d'identité professionnelle, vous êtes sur le QR code, justement, pour permettre de vérifier, parce que vous avez bien pris compte, bien évidemment, des effets délétères de cette fraude massive, de ce déclassement, parce qu'un DPE de complaisance, Madame la Ministre, c'est un DPE frauduleux, on est d'accord là-dessus. Je vous écoute.
Alors, écoutez, ce sujet, là encore, moi je suis arrivée fin septembre, je me suis attelée tout de suite au budget et j'en suis sortie, comme vous le savez, en février. Mais je n'ai pas, il ne m'a pas échappé pendant cette période qu'il y avait un vrai sujet sur un élément qui est au cœur de notre politique du logement, puisqu'on a fait quand même du DPE un élément central par rapport à la valeur d'un bien immobilier. On soit vendeur, qu'on soit acheteur d'un bien immobilier, qu'on soit propriétaire, loueur ou locataire, le DPE, il est au cœur
Absolument.
De la réglementation
Absolument.
Ou de la définition de la valeur d'un bien qui est soit au maximum de sa valeur ou dégradé en fonction de son étiquette. Donc on voit bien que petit à petit, au travers des différentes lois et de la mise en application des différentes lois et politiques publiques que nous mettons en œuvre, le DPE, il prend une place significative. Il est une espèce de pierre angulaire de toute la mise en valeur, en tout cas de nos biens immobiliers. Donc, c'est vrai que tout a été très vite. Enfin, tout avance très vite. C'est-à-dire que MaPrimeRénov', qui est arrivée donc, dans la foulée de la loi climat, elle est à partir de 2022, a commencé à être massifiée fortement. Il a fallu développer le nombre de diagnostiqueurs. En clair, on a massifié. On a fait aujourd'hui 2 500 000 financements via MaPrimeRénov' de ménages qui ont pu être accompagnés dans la rénovation thermique de leurs biens. Il a fallu avancer très rapidement sur la formation et la mise le développement de diagnostiqueurs, de professionnels, et ça a été très vite. C'est-à-dire qu'on a massifié d'abord, et maintenant, il faut qu'on s'inquiète de la qualification. Moi, je veux qualifier les diagnostiqueurs, je veux qu'on soit intransigeant et exigeant. Moi, c'est un sujet qui m'est apparu comme le nez au milieu de la figure.
Le QR code, vous allez le faire, la carte d'identité professionnelle.
Et très honnêtement, je vais décliner dans les quelques jours qui viennent un plan complet, parce que j'ai vraiment l'intention de faire en sorte de prendre le sujet à bras-le-corps. C'est trop important. Le rôle, le pouvoir, l'importance du diagnostiqueur et d'autres métiers qui vont se développer au cœur de nos nouvelles politiques du logement, de par l'importance que revêt cette qualité énergétique du bâti, nécessite qu'on agisse en formation, en bilan de compétences, nécessite qu'on agisse sur bien des sujets et bien des domaines, y compris par rapport à ceux qui n'auront pas respecté les règles du jeu. Je vais présenter un plan détaillé là-dessus, mais croyez-moi, c'est vraiment un sujet. Je pense que dans l'intérêt de la profession, dans l'intérêt de nos concitoyens, on doit agir sur ce sujet.
Voilà, j'ai droit à une dernière question ? Une petite question très rapide, parce qu'elle est importante, c'est celle de la fiscalité, si vous me permettez. Vous avez chargé, je crois, Robin Ribaton, me semble-t-il, un groupe pour réfléchir sur, puisque bon, la mort du Pinel, sur le statut du bailleur privé. Je sais qu'on vous bassine avec ça, qu'on vous en parle à chaque fois, mais c'est normal, ça tient à cœur aux professionnels. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est que je pense que vous y croyez au statut du bailleur privé. Vous êtes en train d'y réfléchir. Est-ce qu'on a bon espoir que ce statut verra le jour un jour ?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le rendez-vous qu'on a dans la foulée, ici, dans l'après-midi, où je vais, devant la presse, effectivement, exposer les différentes ambitions.
Dont c'est ce soir à 17h.
Voilà, dont certaines que je viens de vous repréciser avec vous. Il y a un sujet sur lequel nous allons lancer immédiatement d'ailleurs une mission parlementaire, donc à laquelle seront conviés un député et un sénateur à nous remettre un rapport pour juin au plus tard, en vue justement de préparer l'avenir, mais l'avenir à partir de 2026, en tout cas on s'y colle, sur ce que pourrait être et à construire bien évidemment en lien avec Matignon et Bercy, puisqu'il va falloir mettre aussi là clairement tout le monde autour de la table pour voir jusqu'où on peut aller dans un contexte budgétaire difficile, mais d'essayer de donner de la perspective, de la visibilité et à ceux qui veulent s'engager dans l'investissement privé. C'est le statut du bailleur privé, qu'est-ce que c'est ? On a entendu tout sur ce qu'est le statut du bailleur privé. Nous, ce qu'on veut, c'est que deux parlementaires s'attachent à rapidement, puisqu'on veut que ça aille vite pour juin, rencontrer les acteurs du secteur pour voir ce qui pourrait être de nature à rendre une attractivité à l'investissement dans la pierre pour faire du locatif abordable. On veut vraiment regarder comment on redonne une attractivité à l'investissement privé dans le locatif, parce que ce n'est pas le logement social à lui seul qui va y arriver.
Absolument.
On a une décroissance de l'investissement dans ce domaine. Il faut y redonner un intérêt. Comment ? On va regarder quelles sont les pistes raisonnables, responsables, mais qui fassent qu'on reprenne un regain d'intérêt sur cet investissement dans la pierre locative.
62% des locataires du parc locatif privé sont éligibles au logement social, vous avez tout dit.
Tout à fait.
On a besoin des petits bailleurs privés.
Et oui.
Qui, contrairement à l'imaginaire, ne possèdent qu'un bien.
Voilà.
C'est le taux de détention. Moi, je suis ravi. Et donc, effectivement, je reprends vos propos. Donc, on a cette commission qui est constituée, qui permettra d'envisager la possibilité.
En tout cas, ce sera un rapport partagé entre des parlementaires et le secteur qui nous donnera une base pour pouvoir construire des solutions pour l'avenir, avec donc qui sera co-signée, cette mission, elle est co-signée par moi-même, mais aussi Éric Lombard et Amélie de Montchalin.
On doit finir cet entretien, on va le finir tout de suite. Je voulais juste faire un tout petit point rapide. Ce n'est pas une question, je rassure ceux qui nous écoutent. C'était sur l'habitat d'urgence, les positions que vous avez prises. Je voudrais vous féliciter de l'avoir fait parce que c'est un vrai sujet. Il y a des personnes aujourd'hui en situation de grave danger, notamment des femmes battues, où on a sur les violences conjugales auxquelles vous vous êtes penché. Bon, je suis très impliqué, comme vous le savez, à titre personnel sur cette question. Merci pour ce que vous avez fait. Je rappelle effectivement que vous avez partagé, et vous l'avez dit d'ailleurs, puisque vous avez réitéré le fait que c'est une priorité pour le gouvernement de travailler sur l'habitat indécent et l'habitat indigne.
Tout à fait. Et on sera sur Logement d'abord. Nous remettrons 30 millions d'euros pour accompagner des solutions avec Logement d'abord et 30 millions aussi pour accompagner les femmes et les enfants à la rue. Ouais. Et là aussi, nous allons faire un gros effort de ce point de vue-là pour essayer d'ouvrir des places supplémentaires.
Ça, c'est très important de réitérer effectivement l'habitat indigne, hébergement d'urgence pour celles et ceux qui en ont besoin. Valérie Létard, merci.
Merci.
Un immense merci aussi également à vos équipes d'avoir permis l'interview en direct de l'édition 2025 du MIPIM. Je rappelle que vous êtes la ministre du Logement. J'aurai le plaisir de vous revoir très vite. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Et on se retrouve tout de suite, bien sûr, sur Radio Immo.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.